Ursule Mirouette, première partie, quatrième fichier. Le docteur Minoret était dans un état si violent qu'il sortit sans saluer, suivi par Bouvard qui lui criait à distance « Eh bien ! Eh bien !»« Je me crois fou, Bouvard !» répondit Minoret sur le pas de la porte cochère. « Si la femme a dit vrai pour Ursule !» Comme il n'y a qu'Ursule au monde qui sache ce que cette sorcière m'a révélé. Tu auras raison. Je voudrais avoir des ailes, aller à Nemours vérifier ses assertions. Mais je louerai une voiture et partirai ce soir à 10 heures. Je perds la tête. Que deviendrais-tu donc si, connaissant depuis de longues années un malade incurable, tu le voyais guéri en 5 secondes? Si tu voyais ce grand magnétiseur faire suer à torrent un dartreux, si tu le voyais faire marcher une petite maîtresse percluse. Dînons ensemble, Bouvard, et ne nous quittons pas jusqu'à 9 heures. Je veux chercher une expérience décisive, irrécusable. Soit, mon vieux camarade, répondit le docteur Mesmérien. Les deux ennemis réconciliés allèrent dîner au Palais Royal. Après une conversation animée, à l'aide de laquelle Minoret trompa la fièvre d'idées qui lui ravageait la cervelle, Bouvard lui dit « Si tu reconnais à cette femme la faculté d'anéantir ou de traverser l'espace, si tu acquiers la certitude que, de l'Assomption, elle entend et voit ce qui se dit et se fait à Nemours, il faut admettre tous les autres effets magnétiques. Ils sont pour un incrédule tout aussi impossibles que cela. Demande-lui donc une seule preuve qui te satisfasse, car tu peux croire que nous nous sommes procurés tous ces renseignements. Mais nous ne pouvons pas savoir, par exemple, ce qui va se passer à 9 heures, dans ta maison, dans la chambre de ta pupille. Retiens ou écris ce que la somnambule va voir ou entendre, et cours chez toi. Cette petite Ursule, que je ne connaissais point, n'est pas notre complice, et si elle a dit ou fait ce que tu auras en écrit, baisse la tête, fier sycambre. » Les deux amis revinrent dans la chambre et y trouvèrent la somnambule, qui ne reconnut pas le docteur Minoret. Les yeux de cette femme se fermèrent doucement sous la main que le Swedenborgiste étendit sur elle à distance, et elle reprit l'attitude dans laquelle Minoret l'avait vue avant le dîner. Quand les mains de la femme et celles du docteur furent mises en rapport, il la pria de lui dire tout ce qui se passait chez lui, à Nemours, en ce moment. « Que fait Ursule ? » dit-il. « Elle est déshabillée, elle a fini de mettre ses papillotes. Elle est à genoux sur son prie-dieu, devant un crucifix d'ivoire attaché sur un tableau de velours rouge. » « Que dit-elle ? » ?»« Elle fait ses prières du soir, elle se recommande à Dieu, elle le supplie d'écarter de son âme les mauvaises pensées. Elle examine sa conscience et repasse ce qu'elle a fait dans la journée afin de savoir si elle a manqué à ses commandements ou à ceux de l'Église. Enfin, elle épluche son âme, pauvre chère petite créature. » La somnambule eut les yeux mouillés. Elle n'a pas commis de péché, mais elle se reproche d'avoir trop pensé à Monsieur Savinien, reprit-elle. Elle s'interrompt pour se demander ce qu'il fait à Paris, et prie Dieu de le rendre heureux. Elle finit par vous, et dit à haute voix une prière.
Pouvez-vous la répéter ?
Oui. Minoret prit son crayon, et écrivit, sous la dictée de la somnambule, la prière suivante, évidemment composée par l'abbé Chaperon. « Mon Dieu, si vous êtes content de votre servante qui vous adore et vous prie avec autant d'amour que de ferveur, qui tâche de ne point s'écarter de vos saints commandements, qui mourrait avec joie comme votre fils pour glorifier votre nom, qui voudrait vivre dans votre ombre, vous enfin qui lisez dans les cœurs, faites-moi la faveur de dessiller les yeux de mon parrain, de le mettre dans la voie du salut, et lui communiquez votre grâce, afin qu'il vive en vous ces derniers jours. Préservez-le de tout mal, et faites-moi souffrir en sa place. Bonne sainte Ursule, ma chère patronne, et vous, divine mère de Dieu, reine du ciel, archange et saint du paradis, écoutez-moi. Joignez vos intercessions aux miennes et prenez pitié de nous. » La somnambule imita si parfaitement les gestes candides et les saintes inspirations de l'enfant que le docteur Minoret eut les yeux pleins de larmes. « Dit-elle encore quelque chose ?» demanda Minoret. « Oui. » « Répétez-le. » « Ce cher parrain, avec qui fera-t-il son tric-trac à Paris ?» Elle souffle son bougeoir, elle penche la tête et s'endort. La voilà partie. Elle est bien jolie dans son petit bonnet de nuit. Minoret salua le grand inconnu, serra la main à Bouvard, descendit avec rapidité, courut à une station de cabriolet bourgeois qui existait alors sous la porte d'un hôtel, depuis démoli, pour faire place à la rue d'Alger. Il y trouva un cocher et lui demanda s'il consentait à partir sur le champ pour Fontainebleau. Une fois le prix fait et accepté, le vieillard, redevenu jeune, se mit en route à l'instant. Suivant sa convention, il laissa reposer le cheval à Essonne, atteignit la diligence de Nemours, y trouva de la place et congédia son cocher. Arrivé chez lui vers 5 heures du matin, il se coucha dans les ruines de toutes ses idées antérieures sur la physiologie, sur la nature, sur la métaphysique, et dormit jusqu'à 9 heures, tant il était fatigué de sa course. À son réveil, certain que depuis son retour personne n'avait franchi le seuil de sa maison, le docteur procéda, non sans une invincible terreur, à la vérification des faits. Il ignorait lui-même la différence des 2 billets de banque et l'interversion des 2 volumes de Pandecte. La somnambule avait bien vu. Il sonna la Bougival. « Dites à Ursule de venir me parler, » dit-il en s'asseyant au milieu de sa bibliothèque. L'enfant vint, elle courut à lui, l'embrassa, le docteur la prit sur ses genoux, où elle s'assit, en mêlant ses belles touffes blondes aux cheveux blancs de son vieil ami. « Vous avez quelque chose, mon parrain ?»« Oui, mais promets-moi, pour ton salut, de répondre franchement, sans détour, à mes questions. » Ursule rougit jusque sur le front. « Oh, je ne te demanderai rien que tu ne puisses me dire, » dit-il en continuant, et voyant la pudeur du premier amour troubler la pureté jusqu'alors enfantine de ses beaux yeux. « Parlez, mon parrain. Par quelle pensée as-tu fini tes prières du soir hier, et à quelle heure les as-tu faites ?»« Il était 9h15, 9h30. »« Eh bien, répète-moi ta dernière prière. » La jeune fille espéra que sa voix communiquerait sa foi à l'incrédule. Elle quitta sa place, se mit à genoux, joignit les mains avec ferveur, une lueur radieuse illumina son visage. Elle regarda le vieillard et lui dit « Ce que je demandais hier à Dieu, je l'ai demandé ce matin, je le demanderai jusqu'à ce qu'il m'ait exaucé. » Puis elle répéta sa prière avec une nouvelle et plus puissante expression. Mais à son grand étonnement, son parrain l'interrompit en achevant la prière. « Bien, Ursule, » dit le docteur en reprenant sa filleule sur ses genoux. « Quand tu t'es endormie la tête sur l'oreiller, n'as-tu pas dit en toi-même « Ce cher parrain, avec qui fera-t-il son tric-trac à Paris ?» Ursule se leva comme si la trompette du jugement dernier eût éclaté à ses oreilles. Elle jeta un cri de terreur. Ses yeux agrandis regardaient le vieillard avec une horrible fixité. « Qui êtes-vous, mon parrain ? De qui tenez-vous une pareille puissance ?» lui demanda-t-elle en imaginant que, pour ne pas croire en Dieu, il devait avoir fait un pacte avec l'ange de l'enfer. qu'as-tu semé hier dans le jardin ?
Du réséda, des pois de senteur, des balsamines.
Et en dernier, des pieds d'alouette ?
Elle tomba sur ses genoux. « Ne m'épouvantez pas, mon parrain, mais vous étiez ici, n'est-ce pas ?»«
Ne suis-je pas toujours avec toi ?»
répondit le docteur en plaisantant pour respecter la raison de cette innocente fille.
« Allons dans ta chambre. »
Il lui donna le bras et monta l'escalier.
« Vos jambes tremblent, mon bon ami, » dit-elle.
« Oui, je suis comme foudroyée. »
« Croiriez-vous donc enfin en Dieu ? »
s'écria-t-elle avec une joie naïve en laissant voir des larmes dans ses yeux.
Le vieillard regarda la chambre, si simple et si coquette qu'il avait arrangée pour Ursule. À terre, un tapis vert, uni, peu coûteux, qu'elle maintenait dans une exquise propreté.
Sur les murs, un papier gris de lin semé de roses avec leurs feuilles vertes. Aux fenêtres, qui avaient vu sur la cour, des rideaux de calicot ornés d'une bande d'étoffe rose. Entre les deux croisées, sous une haute glace longue, une console en bois doré couverte d'un marbre, sur laquelle était un vase de bleu de Sèvres où elle mettait des bouquets. Et en face de la cheminée, une petite commode, d'une charmante marqueterie et à dessus de marbre, dit « brèche d'Alep ». Le lit, en vieille perse et à rideaux de perse doublés de rose, était un de ces lits à la duchesse si commun au XVIIIe siècle et qui avait pour ornement une touffe de plumes sculptée au-dessus des quatre colonnettes cannelées de chaque angle. Une vieille pendule, enfermée dans une espèce de monument en écaille incrusté d'arabesques en ivoire, décorait la cheminée, dont le chambranle et les flambeaux de marbre, dont la glace et son trumeau à peinture en grisaille, offraient un remarquable ensemble de tons, de couleurs et de manières. Une grande armoire, dont les battants offraient des paysages faits avec différents bois, dont quelques-uns avaient des teintes vertes et qui ne se trouvent plus dans le commerce, contenait sans doute son linge et ses robes. Il respirait dans cette chambre un parfum du ciel. L'exact arrangement des choses attestait un esprit d'ordre, un sens de l'harmonie, qui certes aurait saisi tout le monde, même Minoret Levrault. On voyait surtout combien les choses qui l'environnaient étaient chères à Ursule, et combien elle se plaisait dans une chambre qui tenait, pour ainsi dire, à toute sa vie d'enfant et de jeune fille. En passant tout en revue par maintien, le tuteur s'assurait que de la chambre d'Ursule on pouvait voir chez madame de Portenduère. Pendant la nuit, il avait médité sur la conduite qu'il devait tenir avec Ursule relativement au secret surpris de cette passion naissante. Un interrogatoire le compromettrait vis-à-vis de sa pupille. Ou il approuverait, ou il désapprouverait cet amour. Dans les deux cas, sa position devenait fausse. Il avait donc résolu d'examiner la situation respective du jeune Portenduère et d'Ursule, pour savoir s'il devait combattre ce penchant avant qu'il fût irrésistible. Un vieillard pouvait seul déployer tant de sagesse. Encore pantelant sous les atteintes de la vérité des faits magnétiques, il tournait sur lui-même et regardait les moindres choses de cette chambre. Il voulait jeter un coup d'œil sur l'almanach suspendu au coin de la cheminée.
« Ces vilains flambeaux sont trop lourds pour tes jolies menottes, » dit-il en prenant les chandeliers en marbre ornés de cuivre. Il les soupesa, regarda l'almanach, le prit et dit « Ceci me semble bien laid aussi. Pourquoi gardes-tu cet almanach de facteur dans une si jolie chambre ?»
« Oh, laissez-le-moi, mon parrain. »«
Non, tu en auras un autre demain. »
Il descendit en emportant cette pièce de conviction, s'enferma dans son cabinet, chercha Saint-Savinien et trouva, comme l'avait dit la somnambule, un petit point rouge devant le 19 octobre. Il en vit également un en face du jour de Saint-Denis, son patron à lui, et devant Saint-Jean, le patron du curé. Ce point, gros comme la tête d'une épingle, la femme endormie l'avait aperçu malgré la distance et les obstacles. Le vieillard médita jusqu'au soir sur ces événements, plus immenses encore pour lui que pour tout autre. Il fallait se rendre à l'évidence. Une forte muraille s'écroula pour ainsi dire en lui-même, car il vivait appuyé sur deux bases, son indifférence en matière de religion et sa dénégation du magnétisme. En prouvant que les sens, construction purement physique, organes dont tous les effets s'expliquaient, étaient terminés par quelques-uns des attributs de l'infini, le magnétisme renversait, ou du moins lui paraissait renverser, la puissante argumentation de Spinoza. L'infini et le fini, deux éléments incompatibles selon ce grand homme, se trouvaient l'un dans l'autre. Quelque puissance qu'il accordât à la divisibilité, à la mobilité de la matière, il ne pouvait pas lui reconnaître des qualités quasi divines. Enfin, il était devenu trop vieux pour rattacher ces phénomènes à un système, pour les comparer à ceux du sommeil, de la vision, de la lumière. Toute sa science, basée sur les assertions de l'école de Locke et Condillac, était en ruine. En voyant ces creuses idoles en pièces, nécessairement, son incrédulité chancelait. Ainsi, tout l'avantage, dans le combat de cette enfance catholique contre cette vieillesse voltairienne, allait être à Ursule. Dans ce fort démantelé, sur ses ruines, ruisselait une lumière. Du sein de ses décombres éclatait la voix de la prière. Néanmoins, l'obstiné vieillard chercha querelle à ses doutes. Encore qu'il fût atteint au cœur, il ne se décidait pas. Il luttait toujours contre Dieu. Cependant, son esprit parut vacillant. Il ne fut plus le même. Devenu songeur outre mesure, il lisait les pensées de Pascal. Il lisait la sublime histoire des variations de Bossuet. Il lisait Bonald. Il lut saint Augustin. Il voulut aussi parcourir les œuvres de Swedenborg et de feu saint Martin, desquels lui avait parlé l'homme mystérieux. L'édifice bâti chez cet homme par le matérialisme craquait de toutes parts. Il ne fallait plus qu'une secousse. Et quand son cœur fut mûr pour Dieu, il tomba dans la vigne céleste comme tombent les fruits. Plusieurs fois déjà, le soir, en jouant avec le curé, sa filleule à côté d'eux, il avait fait des questions qui, relativement à ses opinions, paraissaient singulières à l'abbé Chaperon, ignorant encore du travail intérieur par lequel Dieu redressait cette belle conscience. « Croyez-vous aux apparitions ?» demanda l'incrédule à son pasteur en interrompant la partie. Cardan, un grand philosophe du XVIe siècle, a dit en avoir eu, répondit le curé. Je connais toutes celles qui ont occupé les savants. Je viens de relire Plotin. Je vous interroge en ce moment comme catholique et vous demande si vous pensez que l'homme mort puisse revenir voir les vivants. Mais Jésus est apparu aux apôtres après sa mort, reprit le curé. L'Église doit avoir foi dans les apparitions de notre Sauveur. Quant au miracle, nous n'en manquons pas, dit l'abbé Chaperon en souriant. Voulez-vous connaître le plus récent? Il a eu lieu pendant le XVIIIe siècle. Bah! Oui, le bienheureux Marie-Alphonse de Ligori a su bien loin de Rome la mort du pape au moment où le Saint-Père expirait. Et il y a de nombreux témoins de ce miracle. Le Saint-Évêque, entré en extase, entendit les dernières paroles du souverain pontife et les répéta devant plusieurs personnes. Le courrier chargé d'annoncer l'événement ne vint que 30 heures après. « Jésuite !»
répondit le vieux Minoret en plaisantant. « Je ne vous demande pas de preuves. Je vous demande si vous y croyez. »
« Je crois que l'apparition dépend beaucoup de celui qui la voit, »
dit le curé, continuant à plaisanter l'incrédule.
« Mon ami, je ne vous tends pas de piège. Que croyez-vous sur ceci ?»«
Je crois à la puissance de Dieu infinie, » dit l'abbé.
« Quand je serai mort, si je me réconcilie avec Dieu, je le prierai de me laisser vous apparaître, »
dit le docteur en riant.
C'est précisément la convention faite entre Cardan et son ami, répondit le curé.
Ursule, dit Minoret, si jamais un danger te menaçait, appelle-moi, je viendrai.
Vous venez de dire, en un seul mot, la touchante élégie intitulée Néer d'André Chénier, répondit le curé.
Mais les poètes ne sont grands que parce qu'ils savent revêtir les faits ou les sentiments d'images éternellement vivantes.
Pourquoi parlez-vous de votre mort, mon cher parrain ?
Dit d'un ton douloureux la jeune fille.
Nous ne mourrons pas, nous autres chrétiens. Notre tombe est le berceau de notre âme.
Enfin, dit le docteur en souriant. Il faut bien s'en aller de ce monde, et quand je n'y serai plus, tu seras bien étonné de ta fortune.
Quand vous ne serez plus, mon bon ami, ma seule consolation sera de vous consacrer ma vie.
À moi ? Mort ?
Oui, toutes les bonnes œuvres que je pourrai faire seront faites en votre nom pour racheter vos fautes. Je prierai Dieu tous les jours afin d'obtenir de sa clémence infinie qu'il ne punisse pas éternellement les erreurs d'un jour, ou qu'il mette près de lui, parmi les âmes des bienheureux, une âme aussi belle, aussi pure que la vôtre.
Cette réponse, dite avec une candeur angélique, prononcée d'un accent plein de certitude, confondit l'erreur et convertit Denis Minoret à la façon de saint Paul. Un rayon de lumière intérieure l'étourdit en même temps que cette tendresse, étendue sur sa vie à venir, lui fit venir les larmes aux yeux. Ce subit effet de la grâce eut quelque chose d'électrique. Le curé joignit les mains et se leva troublé. La petite, surprise de son triomphe, pleura. Le vieillard se dressa comme si quelqu'un l'eût appelé, regarda dans l'espace comme s'il y voyait une aurore. Puis, il fléchit le genou sur son fauteuil, joignit les mains et baissa les yeux vers la terre, en homme profondément humilié.
« Mon Dieu ! » dit-il d'une voix émue en relevant son front. « Si quelqu'un peut obtenir ma grâce et m'amener vers toi, n'est-ce pas cette créature sans tache ? Pardonne à cette vieillesse repentie que cette glorieuse enfant te présente. »
Il éleva mentalement son âme à Dieu, le priant d'achever de l'éclairer par sa science après l'avoir foudroyé de sa grâce. Il se tourna vers le curé, et lui tendant la main,
« Mon cher pasteur, je redeviens petit, je vous appartiens et vous livre mon âme. »
Ursule couvrit de larmes joyeuses les mains de son parrain en les lui baisant. Le vieillard prit cet enfant sur ses genoux et la nomma gaiement sa marraine. Le curé, tout attendri, récita le « Veni Creator » dans une sorte d'effusion religieuse. Cet hymne servit de prière du soir à ces trois chrétiens agenouillés.
« Qu'y a-t-il ? »
demanda la Bougival étonnée.
« Enfin, mon parrain croit en Dieu !» répondit Ursule.
« Ah, ma foi, tant mieux ! Il ne lui manquait que ça pour être parfait !» s'écria la vieille Bressane en se signant avec une naïveté sérieuse.
« Cher docteur, dit le bon prêtre, vous aurez compris bientôt les grandeurs de la religion et la nécessité de ses pratiques. vous trouverez sa philosophie dans ce qu'elle a d'humain, bien plus élevée que celle des esprits les plus audacieux. »
Le curé, qui manifestait une joie presque enfantine, convint alors de catéchiser ce vieillard en conférant avec lui deux fois par semaine. Ainsi, la conversion attribuée à Ursule et à un esprit de calcul sordide fut spontanée. Le curé, qui s'était abstenu pendant 14 années de toucher aux plaies de ce cœur, tout en les déplorant, avait été sollicité, comme on va quérir le chirurgien en se sentant blessé. Depuis cette scène, tous les soirs, les prières prononcées par Ursule avaient été faites en commun. De moment en moment, le vieillard avait senti la paix, succédant en lui-même aux agitations. En ayant, comme il le disait, Dieu pour éditeur responsable des choses inexplicables, son esprit était à l'aise. Sa chère enfant lui répondait qu'il se voyait bien à ceci qu'il avançait dans le royaume de Dieu. Pendant la messe, il venait de lire les prières en y appliquant son entendement, car il s'était élevé dans une première conférence à la divine idée de la communion entre tous les fidèles. Ce vieux néophyte avait compris le symbole éternel attaché à cette nourriture, et que la foi rend nécessaire quand il a été pénétré dans son sens intime, profond, radieux. S'il avait paru pressé de revenir au logis, c'était pour remercier sa chère petite filleule de l'avoir fait entrer en religion, selon la belle expression du temps passé. Aussi la tenait-il sur ses genoux dans son salon et la baisait-il saintement au front au moment où, salissant de leurs craintes ignobles une si sainte influence, ses héritiers collatéraux prodiguaient à Ursule les outrages les plus grossiers. L'empressement du bonhomme à rentrer chez lui, son prétendu dédain pour ses proches, ses mordantes réponses au sortir de l'église, étaient naturellement attribués par chacun des héritiers à la haine qu'Ursule lui inspirait contre eux. Pendant que la filleule jouait à son parrain des variations sur la dernière pensée de Weber, il se tramait dans la salle à manger de la maison Minoret-Levrault un honnête complot qui devait avoir pour résultat d'amener sur la scène un des principaux personnages de ce drame. Le déjeuner, bruyant comme tous les déjeuners de province, et animé par d'excellents vins qui arrivent à Nemours par le canal, soit de la Bourgogne, soit de la Touraine, dura plus de 2 heures. Zélie avait fait venir du coquillage, du poisson de mer et quelques raretés gastronomiques afin de fêter le retour de Désiré. La salle à manger, au milieu de laquelle la table ronde offrait un spectacle réjouissant, avait l'air d'une salle d'auberge. Satisfaite de la grandeur de ses communs, Zélie s'était bâti un pavillon entre sa vaste cour et son jardin cultivé en légumes, plein d'arbres fruitiers. Tout chez elle était seulement propre et solide. L'exemple de Levrault-Levrault avait été terrible pour le pays. Aussi défendit-elle à son maître architecte de la jeter dans de pareilles sottises. Cette salle était donc tendue d'un papier verni, garnie de chaises en noyer, de buffets en noyer, ornée d'un poêle en faïence, d'un cartel et d'un baromètre. Si la vaisselle était en porcelaine blanche commune, la table brillait par le linge et par une argenterie abondante. Une fois le café servi par Zélie, qui allait et venait comme un grain de plomb dans une bouteille de vin de champagne, car elle se contentait d'une cuisinière. Quand Désiré, le futur avocat, eut été mis au fait du grand événement de la matinée et de ses conséquences, Zélie ferma la porte, et la parole fut donnée au notaire Dionis. Par le silence qui se fit, et par les regards que chaque héritier attacha sur cette face authentique,
il était facile de reconnaître l'empire que ces hommes exercent sur les familles.
« Mes chers enfants, dit-il,
votre oncle, étant né en 1746, a ses 83 ans aujourd'hui. Or, les vieillards sont sujets à des folies, et cette petite...
« Vipère ! »
s'écria Madame Massin.
« Misérable ! » dit Zélie.
« Ne l'appelons que par son nom, reprit Dionis.
« Eh bien, c'est une voleuse,
dit Madame Crémière.
« Une jolie voleuse,
répliqua Désiré Minoret. « Cette petite Ursule, reprit Dionis, lui tient au cœur. Je n'ai pas attendu, dans l'intérêt de vous tous, qui êtes mes clients, à ce matin pour prendre des renseignements. Et voici ce que je sais sur cette jeune
spoliatrice,
s'écria le receveur.
Captatrice de succession,
dit le greffier.
Chut, mes amis, dit le notaire. Où je prends mon chapeau, je vous laisse, et bonsoir.
« Allons, papa !» s'écria Minoret en lui versant un petit verre de rhum.
« Prenez, il est de rhum même. Et allez, il y a 100 sous de guide. »
Ursule est, il est vrai, la fille légitime de Joseph Mirouette. Mais son père est le fils naturel de Valentin Mirouette, beau-père de votre oncle. Ursule est donc la nièce naturelle du docteur Denis Minoret. Comme nièce naturelle, le testament que ferait le docteur en sa faveur serait peut-être attaquable. Et s'il lui laisse ainsi sa fortune, vous intenteriez à Ursule un procès assez mauvais pour vous. Car on peut soutenir qu'il n'existe aucun lien de parenté entre Ursule et le docteur. Mais... ce procès effraierait certes une jeune fille sans défense et donnerait lieu à quelques transactions.
La rigueur de la loi est si grande sur les droits des enfants naturels,
dit le licencié de fraîche date, jaloux de montrer son savoir,
qu'au terme d'un arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 1817, l'enfant naturel ne peut rien réclamer de son aïeul naturel, pas même des aliments. Ainsi, vous voyez qu'on a étendu la parenté de l'enfant naturel. La loi poursuit l'enfant naturel jusque dans sa descendance légitime, car elle suppose que les libéralités faites aux petits-enfants s'adressent au fils naturel par interposition de personne. Ceci résulte des articles 757, 908 et 911 du Code civil rapproché. Aussi, la Cour royale de Paris, le 26 décembre de l'année dernière, a-t-elle réduit un legs fait à l'enfant légitime du fils naturel par l'aïeul, qui, certes, en tant qu'aïeul, était aussi étranger pour le petit-fils naturel que le docteur, en tant qu'on peut l'être relativement à Ursule.
« Tout cela, dit Goupil, ne me paraît concerner que la question des libéralités faites par les aïeux à la descendance naturelle. Il ne s'agit pas du tout des oncles, qui ne me paraissent avoir aucun lien de parenté avec les enfants légitimes de leur beau-frère naturel. Ursule est une étrangère pour le docteur Minoret. Je me souviens d'un arrêt de la Cour royale de Colmar, rendu en 1825 pendant que j'achevais mon droit, et par lequel on a déclaré que l'enfant naturel, une fois décédé, sa descendance ne pouvait plus être l'objet d'une interposition. Or, le père d'Ursule est mort. » L'argumentation de Goupil produisit ce que, dans les comptes rendus des séances législatives, les journalistes désignent par ces mots « profonde sensation ».
Qu'est-ce que cela signifie ? S'écria Dionis.
Que le cas de libéralité faite par l'oncle d'un enfant naturel ne s'est pas encore présenté devant les tribunaux, mais qu'il s'y présente
et la rigueur de la loi française envers les enfants naturels sera d'autant mieux appliquée que nous sommes dans un temps où la religion est honorée. Aussi puis-je répondre que sur ce procès, il y aurait transaction. Surtout quand on vous saurait déterminé à conduire Ursule jusqu'en cour de cassation. Une joie d'héritier trouvant des monceaux d'or éclata par des sourires, par des haut-le-corps, par des gestes autour de la table qui ne permirent pas d'apercevoir une dénégation de Goupil. Puis, à cet élan, le profond silence et l'inquiétude succédèrent aux premiers mots du notaire, mots terribles. Mais comme s'il eût tiré le fil d'un de ces petits théâtres dont tous les personnages marchent par saccades au moyen d'un rouage, Dionys vit alors tous les yeux braqués sur lui, tous les visages ramenés à une pose unique. Mais aucune loi ne peut empêcher votre oncle d'adopter ou d'épouser Ursule, reprit-il. Quant à l'adoption, elle serait contestée. Et vous auriez, je crois, gain de cause. Les cours royales ne badinent pas en matière d'adoption, et vous seriez entendu dans l'enquête. Le docteur a beau porter le cordon de Saint-Michel, être officier de la Légion d'honneur et ancien médecin de l'ex-empereur, il succomberait. Mais si vous êtes averti en cas d'adoption, comment sauriez-vous le mariage ? Le bonhomme est assez rusé pour aller se marier à Paris après un an de domicile et reconnaître à sa future, par le contrat, une dot d'1 million. Le seul acte qui mette votre succession en danger est donc le mariage de la petite et de son oncle. Ici, le notaire fit une pause. « Il existe un autre danger, » dit encore Goupil d'un air capable. Celui d'un testament fait à un tiers, le père Bongrand, par exemple, qui aurait un fidéicommis relatif à mademoiselle Ursule Mirouette. Si vous taquinez votre oncle, reprit Dionys en coupant la parole à son maître clerc, si vous n'êtes pas tous excellents pour Ursule, vous le pousserez, soit au mariage, soit au fidéicommis dont vous parle Goupil. Mais je ne le crois pas capable de recourir au fidéicommis, moyen dangereux. Quant au mariage, il est facile de l'empêcher. Désirée n'a qu'à faire un doigt de cour à la petite. Elle préférera toujours un charmant jeune homme, le coq de Nemours, à un vieillard. Ma mère, dit à l'oreille de Zélie le fils du maître de poste, autant alléché par la somme que par la beauté d'Ursule. Si je l'épousais, nous aurions tout. Mais tu fous, toi qui auras un jour 50 000 livres de rente et qui dois devenir député, tant que je serai vivante, tu ne te casseras pas le cou par un sot mariage. 700 000 francs, la belle poussée, la fille unique à monsieur le maire aura 50 000 francs de rente et m'a déjà été proposée. Cette réponse, où pour la première fois de sa vie sa mère lui parlait avec rudesse, éteignit en Désiré tout espoir de mariage avec la belle Ursule, car son père et lui ne l'emporteraient jamais sur la décision écrite dans les terribles yeux bleus de Zélie. « Eh, mais dites donc, monsieur Dionys, s'écria Crémière, à qui sa femme avait poussé le coude. Si le bonhomme prenait la chose au sérieux, et marier sa pupille à Désiré, en lui donnant la nue propriété de toute la fortune. Adieu la succession. Et qu'ils vivent encore 5 ans, notre oncle aura bien 1 million. Jamais, s'écria Zélie, ni de ma vie, ni de mes jours, Désiré n'épousera la fille d'un bâtard, une fille prise par charité, ramassée sur la place. Vertu de chou, mon fils doit représenter les Minoret à la mort de son oncle. Et les Minoret ont 500 ans de bonne bourgeoisie. Cela vaut la noblesse. Soyez tranquille là-dessus. Désiré se mariera quand nous saurons ce qu'il peut devenir à la Chambre des députés.
Cette hautaine déclaration fut appuyée par Goupil, qui dit « Désiré, doté de 24 000 livres de rente, deviendra au président de cour royale, au procureur général, ce qui mène à la pairie, et un sot mariage l'enfoncerait. » Les héritiers se parlèrent tous alors les uns aux autres, mais ils se turent au coup de poing que Minoret frappa sur la table pour maintenir la parole au notaire.
« Votre oncle est un brave et digne homme, » reprit Dionis. « Il se croit immortel, et comme tous les gens d'esprit, il se laissera surprendre par la mort sans avoir testé. Mon opinion est donc pour le moment de le pousser à placer ses capitaux de manière à rendre votre dépossession difficile, et l'occasion s'en présente. Le petit portenduaire est à Sainte-Pélagie, écroué pour 100 et quelques 1000 francs de dette. Sa vieille mère le sait en prison. Elle pleure comme une madeleine et attend l'abbé Chaperon à dîner, sans doute pour causer avec lui de ce désastre. Eh bien, j'irai ce soir engager votre oncle à vendre ses rentes 5% consolidées, qui sont à 118, et à prêter à madame de Portenduère, sur sa ferme des Bordières et sur sa maison, la somme nécessaire pour dégager l'enfant prodigue. Je suis dans mon rôle de notaire, en lui parlant pour ce petit niais de Portenduère, et il est très naturel que je veuille lui faire déplacer ses rentes. J'y gagne des actes, des ventes, des affaires. Si je puis devenir son conseil, je lui proposerai d'autres placements en terre pour le surplus du capital, et j'en ai d'excellents à mon étude. Une fois sa fortune mise en propriété foncière ou en créance hypothécaire dans le pays, elle ne s'envolera pas facilement. On peut toujours faire naître des embarras entre la volonté de réaliser et la réalisation.
Les héritiers, frappés de la justesse de cette argumentation bien plus habile que celle de M. Josse, firent entendre des murmures approbatifs.
« Entendez-vous donc bien, » dit le notaire en terminant, « pour garder votre oncle à Nemours, où il a ses habitudes, où vous pourrez le surveiller. En donnant un amant à la petite, vous vous empêchez le mariage. »
« Mais si le mariage se faisait ?»
dit Goupil, étreint par une pensée ambitieuse.
« Ce ne serait pas déjà si bête, car la perte serait chiffrée. On saurait ce que le bonhomme veut lui donner, » répondit le notaire. « Mais si vous lui lâchez Désiré, il peut bien lambiner la petite jusqu'à la mort du bonhomme. Les mariages se font et se défont. »
« Le plus court, » dit Goupil, « si le docteur doit vivre encore longtemps, serait de la marier à un bon garçon qui vous en débarrasserait en allant s'établir avec elle à Sens, à Montargis, à Orléans, avec 100 000 francs. »
Dionis, Massin, Zélie et Goupil, les seules têtes fortes de cette assemblée, échangèrent 4 regards remplis de pensées.
« Ce serait le ver dans la poire !» dit Zélie à l'oreille de Massin.
« Pourquoi l'a-t-on laissé venir ?» répondit le greffier.
« Ça tirait !» cria Désiré à Goupil. « Mais pourrais-tu jamais te tenir assez proprement pour plaire au vieillard et à sa pupille ?»«
Tu ne te frottes pas le ventre avec un panier ?»
dit le maître de poste, qui finit par comprendre l'idée de Goupil. Cette grosse plaisanterie eut un succès prodigieux. Le maître clerc examina les rieurs par un regard circulaire si terrible que le silence se rétablit aussitôt.
« Aujourd'hui, » dit Zélie à Massin d'oreille à oreille, « les notaires ne connaissent que leurs intérêts, et si Dionis allait, pour faire des actes, se mettre du côté d'Ursule ?»«
Je suis sûr de lui, »
répondit le greffier en jetant à sa cousine un regard de ses petits yeux malicieux. Il allait ajouter
« J'ai de quoi le perdre !»
Mais il se retint.
« Je suis tout à fait de l'avis de Dionis, » dit-il à haute voix.
« Et moi aussi !» s'écria Zélie, qui cependant soupçonnait déjà le notaire d'une collision d'intérêts avec le greffier.
« Ma femme a voté !» dit le maître de poste en humant un petit verre. Quoique déjà sa face fût violacée par la digestion du déjeuner et par une notable absorption de liquide.
« C'est très bien, » dit le percepteur.
« J'irai donc après le dîner, » reprit Dionis.
« Si monsieur Dionis a raison, » dit madame Crémière à madame Massin, « il faut aller chez notre oncle comme autrefois, en soirée, tous les dimanches, et faire tout ce que vient de nous dire monsieur Dionis. »«
Oui, pour être reçus comme nous l'étions, » s'écria Zélie.
« Après tout, nous avons plus de 40 000 livres de rente, et il a refusé toutes nos invitations. Nous le valons bien. Si je ne sais pas faire des ordonnances, je sais mener ma barque, moi. »
« Comme je suis loin d'avoir 40 000 livres de rente, » dit madame Massin un peu piquée, « je ne me soucie pas d'en perdre 10 000. »«
Nous sommes ses nièces. Nous le soignerons. Nous y verrons clair, » dit madame Crémière. « Et vous nous en saurez gré quelques jours, cousine. »«
Ménagez bien, Ursule. Le vieux bonhomme de Jordi lui a laissé ses économies, » fit le notaire en levant son index droit à la hauteur de sa lèvre.
« Je vais me mettre sur mon 51, » s'écria Désiré. « Vous avez été aussi fort que des roches, le plus fort des avoués de Paris, »
dit Goupil à son patron en sortant de la poste.
« Et ils discutent nos honoraires, »
répondit le notaire en souriant avec amertume. Les héritiers qui reconduisaient Dionis et son premier clerc se trouvèrent le visage assez allumé pour le déjeuner, tous à la sortie des vêpres. Selon les prévisions du notaire, l'abbé Chaperon donnait le bras à la vieille madame de Portenduère.
« Elle l'a traînée à vêpres !»
s'écria madame Massin en montrant à madame Crémière, Ursule et son parrain qui sortaient de l'église.
« Allons lui parler !»
dit madame Crémière en s'avançant vers le vieillard. Le changement que la conférence avait opéré sur tous ses visages surprit le docteur Minoret. Il se demanda la cause de cette amitié de commande et, par curiosité, favorisa la rencontre d'Ursule et des deux femmes empressées de la saluer avec une affection exagérée et des sourires forcés.
« Mon oncle, nous permettrez-vous de venir vous voir ce soir ?»
dit madame Crémière.
« Nous avons cru quelquefois vous gêner, mais il y a bien longtemps que nos enfants ne vous ont rendu leurs devoirs. Et voilà nos filles en âge de faire connaissance avec notre chère Ursule. »
« Ursule est digne de son nom, » répliqua le docteur. « Elle est très sauvage. »«
Laissez-nous l'apprivoiser, » dit madame Massin. « Et puis tenez, mon oncle, »
ajouta cette bonne ménagère en essayant de cacher ses projets sous un calcul d'économie.
« On nous a dit que votre chère filleule a un si beau talent sur le forte que nous serions bien enchantés de l'entendre. Madame Crémière et moi, nous sommes assez disposés à prendre son maître pour nos petites, car s'il avait 7 ou 8 élèves, il pourrait mettre le prix de ses leçons à la portée de nos fortunes. »
« Volontiers, » dit le vieillard. « Et cela se trouvera d'autant mieux que je veux aussi donner un maître de chant à Ursule. »
« Eh bien, à ce soir, mon oncle, nous viendrons avec votre petit-neveu Désiré, que voilà maintenant avocat. »
« À ce soir, » répondit Minoret, qui voulut pénétrer ses petites âmes. Les deux nièces serrèrent la main d'Ursule en lui disant avec une grâce affectée
« Au revoir !»«
Oh, mon parrain, vous lisez donc dans mon cœur !» s'écria Ursule en jetant au vieillard un regard plein de remerciements.
« Tu as de la voix, » dit-il, « et je veux te donner aussi des maîtres de dessin et d'italien.
Une femme,
reprit le docteur en regardant Ursule au moment où il ouvrait la grille de sa maison, doit être élevée de manière à se trouver à la hauteur de toutes les positions où son mariage peut la mettre. Ursule devint rouge comme une cerise. Son tuteur semblait penser à la personne à laquelle elle pensait elle-même. En se sentant près d'avouer au docteur le penchant involontaire qui la portait à s'occuper de Savinien et à lui rapporter tous ses désirs de perfection, elle alla s'asseoir sous le massif de plantes grimpantes où, de loin, elle se détachait comme une fleur blanche et bleue. « Vous voyez bien, mon parrain, que vos nièces sont bonnes pour moi. Elles ont été gentilles !» dit-elle en le voyant venir et pour lui donner le change sur les pensées qui la rendaient rêveuse. « Pauvre petite !» s'écria le vieillard. Il étala sur son bras la main d'Ursule en la tapotant et l'emmena le long de la terrasse au bord de la rivière où personne ne pouvait les entendre. « Pourquoi, dites-vous, pauvre petite ?»«
Ne vois-tu pas qu'elle te craigne ?»«
Et pourquoi ?»« Mes héritiers sont en ce moment tous inquiets de ma conversion. Ils l'ont sans doute attribuée à l'empire que tu exerces sur moi et s'imaginent que je les frustrerais de ma succession pour t'enrichir. »«
Mais ce ne sera pas, » dit naïvement Ursule en regardant son parrain.
« Oh, divine consolation de mes vieux jours !» dit le vieillard qui enleva de terre sa pupille et la baisa sur les deux joues. « C'est bien pour elle et non pour moi, mon Dieu, que je vous ai prié tout à l'heure de me laisser vivre jusqu'au jour où je l'aurai confiée à quelque bon être digne d'elle. Tu verras, mon petit ange, les comédies que les Minoret, les Crémière et les Massin vont venir jouer ici. » Tu veux embellir et prolonger ma vie, toi? Eux, ils ne pensent qu'à ma mort. Dieu nous défend de haïr, mais si cela est... Oh, je les méprise bien, fit Ursule.
Le dîner, cria la Bougival du haut du perron, qui, du côté de jardin, se trouvait au bout du corridor.
Ursule et son tuteur étaient au dessert, dans la jolie salle à manger décorée de peintures chinoises en façon de lac, la ruine de Levrault-Levrault, lorsque le juge de paix se présenta. Le docteur lui offrit, telle était sa grande marque d'intimité, une tasse de son café mocha mélangée de café bourbon et de café martinique, brûlé, moulu, fait par lui-même dans une cafetière d'argent, dite « à la Chaptal. »
Eh bien, dit Bongrand en relevant ses lunettes et regardant le vieillard d'un air naquois.
« La ville est en l'air. Votre apparition à l'église a révolutionné vos parents. Vous laissez votre fortune aux prêtres, aux pauvres. Vous les avez remués, et ils se remuent. Ah, j'ai vu leur première émeute sur la place. Ils étaient affairés comme des fourmis à qui on a pris leurs œufs.
« Que te disais-je, Ursule ? » s'écria le vieillard. « Au risque de te peiner, mon enfant, ne dois-je pas t'apprendre à connaître le monde et te mettre en garde contre des inimitiés imméritées ?»«
Je voudrais vous dire un mot à ce sujet, » reprit Bongrand en saisissant cette occasion de parler à son vieil ami de l'avenir d'Ursule.
Le docteur mit un bonnet de velours noir sur sa tête blanche. Le juge de paix garda son chapeau pour se garantir de la fraîcheur, et tous deux, ils se promenèrent le long de la terrasse en discutant les moyens d'assurer à Ursule ce que son parrain voudrait lui donner. Le juge de paix connaissait l'opinion de Dionys sur l'invalidité d'un testament fait par le docteur en faveur d'Ursule, car Nemours se préoccupait trop de la succession Minoret pour que cette question n'eût pas été agitée entre les jurisconsultes de la ville. Bongrand avait décidé qu'Ursule Mirouette était une étrangère à l'égard du docteur Minoret, mais il sentait bien que l'esprit de la législation repoussait de la famille les superfétations illégitimes. Les rédacteurs du code n'avaient prévu que la faiblesse des pères et des mères pour les enfants naturels, sans imaginer que des oncles ou des tantes épouseraient la tendresse de l'enfant naturel en faveur de sa descendance. Évidemment, il se rencontrait une lacune dans la loi.
« En tout autre pays, »
dit-il au docteur en achevant de lui exposer l'état de la jurisprudence que Goupil, Dionys et Désiré venaient d'expliquer aux héritiers. « Ursule n'aurait rien à craindre. Elle est fille légitime, et l'incapacité de son père ne devrait avoir d'effet qu'à l'égard de la succession de Valentin Mirouette, votre beau-père. Mais en France, la magistration est malheureusement très spirituelle et conséquentielle. Elle recherche l'esprit de la loi. Des avocats parleront morale et démontreront que la lacune du code vient de la bonhomie des législateurs qui n'ont pas prévu le cas, mais qui n'en ont pas moins établi un principe. Le procès sera long et dispendieux. Avec Zélie, on irait jusqu'en cour de cassation, et je ne suis pas sûr d'être encore vivant quand ce procès se fera.
« Le meilleur des procès ne vaut encore rien !» s'écria le docteur.
« Je vois déjà des mémoires sur cette question. Jusqu'à quel degré l'incapacité qui, en matière de succession, frappe les enfants naturels, doit-elle s'étendre ? Et la gloire d'un bon avocat consiste à gagner de mauvais procès.
« Ma foi, dit Bongrand, je n'oserais prendre sur moi d'affirmer que les magistrats n'étendraient pas le sens de la loi dans l'intention d'étendre la protection accordée au mariage, base éternelle des sociétés. »
Sans se prononcer sur ses intentions, le vieillard rejeta le fidéicommis. Mais quant à la voie d'un mariage que Bongrand lui proposa de prendre pour assurer sa fortune à Ursule,
« Pauvre petite !» s'écria le docteur. « Je suis capable de vivre encore 15 ans. Que deviendrait-elle ? »
« Eh bien, que comptez-vous donc faire ? » dit Bongrand.
« Nous y penserons, je verrai, »
répondit le vieux docteur, évidemment embarrassé de répondre. En ce moment, Ursule vint annoncer aux deux amis que Dionys demandait à parler au docteur.
« Déjà, Dionys ? »
s'écria Minoret en regardant le juge de paix.
« Oui, répondit-il à Ursule, qu'il entre.
Je gagerai mes lunettes contre une allumette qu'il est le paravent de vos héritiers. Ils ont déjeuné tous à la poste avec Dionys. Il s'y est machiné quelque chose. »
Le notaire, amené par Ursule, arriva jusqu'au fond du jardin. Après les salutations et quelques phrases insignifiantes, Dionys obtint un moment d'audience particulière. Ursule et Bongrand se retirèrent au salon.
« Nous y penserons, je verrai, »
se disait en lui-même Bongrand en répétant les dernières paroles du docteur. « Voilà le mot des gens d'esprit. La mort les surprend et ils laissent dans l'embarras les êtres qui leur sont chers. » La défiance que les hommes d'élite inspirent aux gens d'affaires est remarquable. Ils ne leur accordent pas le moins en leur reconnaissant le plus. Mais peut-être cette défiance est-elle un éloge. En leur voyant habiter le sommet des choses humaines, les gens d'affaires ne croient pas les hommes supérieurs capables de descendre aux infiniment petits des détails, qui, de même que les intérêts en finance, et les microscopiques en sciences naturelles, finissent par égaler les capitaux et par former des mondes. Erreur. L'homme de cœur et l'homme de génie voient tout. Bongrand, piqué du silence que le docteur avait gardé, mais mû sans doute par l'intérêt d'Ursule et le croyant compromis, résolut de la défendre contre les héritiers. Il était désespéré de ne rien savoir de cet entretien du vieillard avec Dionys. Quelque pure que soit Ursule, pensa-t-il en l'examinant, il est un point sur lequel les jeunes filles ont coutume de faire à elles seules la jurisprudence et la morale. Essayons. Les Minoret-Levrault,
dit-il à Ursule en raffermissant ses lunettes, sont capables de vous demander en mariage pour leur fils.
La pauvre petite pâlit. Elle était trop bien élevée. Elle avait une trop sainte délicatesse pour aller écouter ce qui se disait entre Dionys et son oncle. Mais, après une petite délibération intime, elle crut pouvoir se montrer, en pensant que, si elle était de trop, son parrain le lui ferait sentir. Le pavillon chinois où se trouvait le cabinet du docteur avait les persiennes de sa porte-fenêtre ouvertes. Ursule inventa d'aller tout y fermer elle-même. Elle s'excusa de laisser seul au salon le juge de paix qui lui dit en souriant « Faites, faites !» Ursule arriva sur les marches du perron par où l'on descendait du pavillon chinois au jardin et y resta pendant quelques minutes, manœuvrant les persiennes avec lenteur et regardant le coucher du soleil. Elle entendit alors cette réponse faite par le docteur qui venait vers le pavillon chinois.
« Mes héritiers seraient enchantés de me voir des biens-fonds, des hypothèques. Ils s'imaginent que ma fortune serait beaucoup plus en sûreté. Je devine tout ce qu'ils se disent. Et peut-être venez-vous de leur part. Apprenez, mon cher monsieur, que mes dispositions sont irrévocables. Mes héritiers auront le capital de la fortune que j'ai apportée ici. Qu'ils se tiennent pour avertis et me laissent tranquille. » Si l'un d'eux dérangeait quelque chose à ce que je crois devoir faire pour cet enfant, il désigna sa filleule, je reviendrai de l'autre monde pour les tourmenter. Ainsi, monsieur Savinien de Portenduère peut bien rester en prison, si l'on compte sur moi pour l'en tirer, ajouta le docteur. Je ne vendrai point mes rentes.
En entendant ce dernier fragment de phrase, Ursule éprouva la première et la seule douleur qui l'eût atteinte. Elle appuya son front à la persienne en s'y attachant pour se soutenir.
« Mon Dieu, qu'a-t-elle ? » s'écria le vieux médecin. « Elle est sans couleur. Une pareille émotion après dîner peut la tuer. »
Il étendit le bras pour prendre Ursule qui tombait presque évanouie.
« Adieu, monsieur, laissez-moi » dit-il au notaire.
Il transporta sa filleule sur une immense bergère du temps de Louis XV qui se trouvait dans son cabinet, saisit un flacon d'éther au milieu de sa pharmacie et le lui fit respirer.
« Remplacez-moi, mon ami, » dit-il à Bongrand effrayé. « Je veux rester seul avec elle. »